bienvenue sur Vocation Entrepreneur, le podcast dédié à la psychologie des femmes entrepreneurs. Je suis Ayette, votre hôte, et j'aide les femmes à comprendre les mécanismes de leur psychologie quand elles décident de lancer un business ou lorsqu'elles sont déjà entrepreneurs. Je vous aide à prendre conscience des schémas mentaux dans lesquels vous êtes, à dépasser ces blocages et à passer à l'action maintenant. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est comme un jeu grandeur nature. Alors, vous êtes prête à jouer? C'est le moment de vous abonner à ma chaîne podcast pour ne rater aucun épisode. Aujourd'hui, vous êtes mon invité. Vous souhaitez un thé ou un café? Installez-vous confortablement pour enfin découvrir les secrets de votre mental. Bienvenue dans cet épisode solo numéro 12 de Vocation Entrepreneur, un épisode que j'ai voulu direct et franc. Avant de commencer la rédaction de cet épisode, j'étais persuadée d'être une personne positive, optimiste, et que le fait de râler, ça ne me concernait pas. Et puis, au fur et à mesure de la lecture du livre de Christine Levicki, J'arrête de râler, je me suis rendu compte que si, je passe aussi mon temps à râler autour de moi sur des petites choses insignifiantes, sur mes enfants, sur certaines situations qui m'exaspèrent, et que cette habitude mentale est beaucoup plus ancrée en moi que je ne le pensais. Et c'est dans mon parcours entrepreneurial actuel que je me rends compte à quel point cette habitude mentale bloquait beaucoup d'initiatives de ma part. Je vous donne un exemple. J'ai envie d'inviter sur mon podcast certaines personnes que je crois inatteignables. Et derrière cette pensée, il y a le fameux « Attends, pourquoi elle m'accorderait une interview alors que je débute dans le podcasting, qu'elle est invitée dans les podcasts les plus réputés et qu'en plus elle doit crouler sous les demandes ?» Et il s'avère que j'ai essayé à plusieurs reprises d'ignorer cette pensée limitante et d'y aller avec tout mon cœur. Et j'ai eu raison. Je n'ai pour l'instant essuyé aucun refus parce que ma perception des invités n'était pas la réalité. Et c'est sur la perception qu'on va travailler aujourd'hui. Comment ne plus être victime de ces pensées? Qu'est-ce qui se cache derrière vos plaintes incessantes? Pour cet épisode, je me suis inspirée du livre de Christine Levicki, J'arrête de râler. Préparez-vous à découvrir des phases de vous-même dont vous n'avez peut-être pas conscience. Vous venez d'ouvrir les yeux dans votre lit et vous commencez à dérouler tout ce que vous avez à faire dans la journée. Des dizaines de pensées vous assaillent et tout est embrouillé dans votre tête. Vous devez préparer le petit déjeuner, déposer les enfants à l'école, passer à la pharmacie, faire un peu de rangement avant de télétravailler, mettre de l'ordre dans vos dossiers, traiter les dossiers prioritaires. Bref, tout ça vous déprime d'avance et vous vous levez sans le sourire aux lèvres, abattu par la montagne de choses à faire. Il y en a marre, c'est toujours la même chose, c'est vous qui gérez tout et devant la bonne humeur et l'insouciance de votre famille, vous explosez parce que vous ne comprenez pas pourquoi eux n'assument pas une partie de votre charge mentale. C'est le début d'une belle journée de plainte et de victimisation. Le premier réflexe est celui de râler, de se plaindre de votre situation. Pourquoi c'est aussi difficile? À ce moment-là, vous enclenchez le schéma suivant. Je me plains pour me sentir mieux. Vous sentir victime vous aide à vous sentir vivante, à supporter l'adversité et à exister un tant soit peu. Et comme le cerveau aime fonctionner en automatique, les pensées de la veille sont à 95% réactivées chaque jour. 95%, oui. Autrement dit, si vous ne prenez pas conscience de vos pensées automatiques, vous resterez victime de ces pensées. Le fait de râler, comme le fait de conduire une voiture, est un automatisme qu'on acquiert par l'habitude. Et on va voir tout de suite d'où ça vient. Alors c'est un secret pour personne, mais nous sommes, nous, Français, connus pour être les champions du monde de la râlerie. C'est un sport national pratiqué à tous les niveaux. Et même si ce trophée peut faire sourire, dans la vie quotidienne, ça ne prend pas une forme franchement marrante. Nous sommes dans un pays démocratique, ce qui donne le droit à tout le monde d'exprimer son opinion et ses sentiments, notamment sur ce qui ne va pas. La mentalité française est dans une logique de droit universel, que l'on pense revendiquer légitimement. À partir du moment où vous considérez que vous avez théoriquement le droit à quelque chose, vous passez votre temps à revendiquer ce droit. Et ça passe par la forme de la plainte. J'ai le droit à ça, et ce n'est pas normal de ne pas l'avoir. Du coup, la société tout entière est en quête de ce qu'elle n'a pas, de ce qu'elle devrait avoir, sans pointer du doigt ce qu'elle a déjà, parce qu'une fois qu'une chose est acquise, elle devient un dû non discutable. Si je fais régulièrement une mise en lumière sur les mentalités sociétales, c'est parce qu'elles ont un impact sur nos schémas de pensée. Notre façon de penser à nous, Français, n'est pas du tout comparable à celle des Chinois, par exemple, parce que les références culturelles ne sont pas les mêmes. En prendre conscience permet de prendre de la distance et de se rendre compte qu'une identité n'est qu'une étiquette collée qui peut tout à fait être décollée et modifiée. Voltaire disait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle met l'accent sur le choix délibéré d'être heureux. Et si on choisit d'être heureux, on choisit également d'être une victime. J'aimerais attirer l'attention sur ce schéma mental. Même s'il est activé par automatisme de pensée, vous avez choisi d'être une victime. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous ne pouvez effectivement pas changer la situation, mais vous pouvez changer votre réaction par rapport à cet événement. Alors on est d'accord, ce n'est pas parce que vous avez conscience de votre réaction automatique que vous pourrez changer du jour au lendemain votre façon de réagir. Mais la première étape, c'est la prise de conscience. Ensuite, vous allez repérer les différentes étapes de votre schéma mental de victimisation et essayer de mettre en place des solutions pour casser progressivement ces schémas. C'est ce que propose de faire Christine Levicky dans son livre « J'arrête de râler » à travers son challenge « 21 jours sans râler ». Je vous conseille fortement d'aller y jeter un œil. On va maintenant supposer que vous avez accepté votre côté râleur compulsif. Vous avez décidé de changer tout ça et de voir la vie en rose. Là se pose un autre problème. C'est le fait que lorsque vous glorifiez le bonheur, on peut vous trouver suspect. Vous n'avez qu'à allumer la télé sur BFM pour vous rendre compte que la diffusion du bonheur ne fait pas partie de la ligne éditoriale des médias. Mais lorsque vous êtes une personne positive, il existe cette peur taboue de dire que vous êtes heureuse. Si autour de vous, vous n'avez que des râleurs et si vous arrivez avec vos gros sabots en glorifiant le bonheur, on va vous prendre pour un bisounours qui n'a aucune conscience de la réalité. Mais derrière ça, ce qu'on vous reproche, c'est de ne pas avoir conscience de leur réalité. Le bonheur ou le malheur, c'est une perception, c'est un choix de positionnement sur un événement extérieur. Et quand la culture dominante, c'est celle de se plaindre, il devient difficile d'exposer son bonheur, de parler d'argent sans complexe, de parler réussite sans penser vanité, par peur d'être excommunié, d'être mis de côté par le groupe. Une maxime comme « pour vivre heureux, vivons cachés » n'est pas célèbre pour rien. En mettant en avant les plaintes, même quand au fond vous êtes quelqu'un de plutôt positif, vous évitez d'exposer les vrais problèmes, d'avoir des échanges vulnérables, d'avoir à supporter l'agressivité des autres qui ne supportent pas de vous voir aussi positive. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que ça change concrètement dans votre vie de râler ? Est-ce que le fait de revendiquer un droit vous l'accorde automatiquement ? Y a-t-il pas moyen d'obtenir vos droits sans râler, en passant par un autre chemin? C'est à ces questions que j'ai essayé de répondre en 6 points. Même si vous êtes hyper motivé, casser un schéma mental, c'est quelque chose de très difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible avec une vision claire, de la détermination et un esprit joueur. La première chose à faire, c'est d'essayer d'identifier le besoin qui se cache derrière une râlerie. Vous allez vous plaindre d'une situation comme par exemple « la technique et l'utilisation de tous ces logiciels me saoulent ». Vous le répétez tellement souvent que vous calibrez votre cerveau à ce que la technique vous saoule vraiment. Et à la prochaine expérience, vous allez redouter de toucher à nouveau à la technique. Le besoin qui est exprimé à travers votre râlerie, c'est que vous avez besoin de maîtriser la technique pour être plus à l'aise et ne plus passer des heures à bidouiller des choses que vous ne comprenez pas. En orientant votre pensée par l'expression d'un besoin, vous allez plus facilement trouver une solution. Dans notre exemple, la solution sera de se faire aider par quelqu'un qui peut vous former, de vous dire que plus vous allez pratiquer et plus la technique deviendra facile, ou bien de déléguer et le problème est réglé. La deuxième chose à faire, c'est d'exprimer ce besoin clairement au lieu d'attendre qu'on vous vienne en aide par télépathie. Savoir communiquer est une compétence qui est souvent mal maîtrisée. On ne nous a pas appris à exprimer clairement ce qu'on veut. c'est de la faute de personne, mais on est responsable de ce qu'on va faire de ce manque de compétences. L'idée est d'améliorer tous les jours votre pouvoir de communiquer, c'est-à-dire de vous assurer que votre interlocuteur a bien compris votre besoin et la demande que vous faites pour combler ce besoin, sans entrer dans la revendication agressive. Par exemple, votre ordinateur est tombé en panne. Au lieu de passer votre journée à vous plaindre, essayez de penser à comment vous allez rapidement régler le problème. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un PC en plus et qui peut vous en prêter un ? Est-ce que vous pouvez le louer temporairement, le temps de la réparation, etc. Orienter rapidement votre esprit vers la recherche de solutions vous permettra de moins vous positionner en victime et de limiter les effets négatifs de choses extérieures dont vous n'êtes pas responsable. Dans cette situation, vous avez deux choix : râler et vous résigner, ou chercher des solutions et rester positive. Si vous voulez approfondir vos compétences en communication, je vous conseille deux livres passionnants que j'ai adorés, « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie et « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs » de Marshall Rosenberg. La troisième chose à faire, c'est de reconnaître que derrière la plainte, il y a parfois une volonté de vous sentir supérieur aux autres. Derrière le fait de pester contre quelqu'un, un organisme, une autorité administrative, vous avez un besoin de vous sentir supérieur à la personne critiquée. Si par exemple vous recevez un rappel d'impôt non prévu, ça va vous mettre dans une colère noire et vous allez râler contre le système fiscal français en le comparant par exemple au système suédois qui lui serait hautement plus efficace. Ce qui se cache derrière, c'est un besoin de reconnaissance, un besoin d'être considéré dans son pays et un besoin de sécurité financière. Parce qu'en recevant un rappel d'impôt, vous allez devoir prendre de l'argent dans vos économies, ce qui accentue votre peur de manquer d'argent. La solution ici serait de trouver un moyen d'obtenir une annulation d'impôt, un report, un échelonnement des paiements pour gérer cette situation le plus paisiblement possible sans avoir besoin de vous sentir supérieur, ce qui au passage ne réglera pas votre problème. Pour le quatrième conseil, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les groupes, comme les familles, il y a toujours une personne qui va essayer de parler un peu plus fort pour forcer les autres à penser comme elle. Vous êtes par exemple dans une réunion familiale pour régler un problème et un membre de votre famille, qui a un certain charisme, va essayer de monter le ton, de se plaindre pour amener les autres à penser comme lui. Le mécanisme est toujours le même. Chercher pourquoi ça n'a pas fonctionné, qui avait pris la décision, qui est le coupable, au lieu de voir devant et de mettre à contribution le cerveau collectif pour trouver une solution. Une personne qui cherche à parler plus fort que les autres cherche en fait à satisfaire son besoin de reconnaissance et son ego. Ne tombez pas dans ce piège et si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, essayez de recentrer le débat autour des intérêts communs et tentez de refroidir les esprits. Le cinquième conseil, c'est de reconnaître que râler ne changera pas le monde. Il faut distinguer le fait de refuser une injustice et le fait de se plaindre d'une injustice. Pour changer quelque chose qui ne va pas dans le monde, je suis intimement convaincue que le fait de se plaindre ne changera rien. Tout au plus, il mettra le doigt sur un problème, mais ne constitue pas en soi la voie vers la solution. Pour vous donner un exemple parlant, c'est le patron qui se plaint sans cesse à ses salariés que les résultats sont mauvais et que le travail accompli n'est pas suffisant, et qu'il a peur pour l'avenir. Sérieusement, comment allez-vous vous sentir dans une ambiance comme celle-là ? En tout cas, moi, j'ai qu'une envie, c'est de poser ma démission, quitte à m'asseoir sur les indemnités de départ. Dans ma dernière interview, on parlait avec l'invité de leadership et que la compétence numéro un d'un bon leader, c'est cette capacité à amener les gens qui le suivent vers une vision commune. Bien évidemment, sur le chemin, il va y avoir plein d'obstacles. Mais quand vous calibrez votre cerveau vers cette vision, les obstacles vont diminuer. Leur importance est amoindrie et vous avez une ligne directrice qui est plus forte que vos petits problèmes. Vous n'arrêterez pas de râler, et moi non plus d'ailleurs. Mais en prenant l'habitude de le faire de moins en moins souvent, vous donnez une chance supplémentaire à vos projets de prendre vie, de mieux apprécier le chemin et d'accéder à une maturité émotionnelle plus ancrée en vous. Les événements extérieurs n'auront plus autant d'impact sur vous. Pour le dernier conseil, si votre objectif c'est de râler moins et d'être plus positive, vous allez à un moment donné anticiper les situations à problème. En fait, en sortant de votre position de victime, vous devenez actrice de votre vie. Le temps que vous passiez à vous plaindre deviendra un temps que vous passerez à agir, à apporter des solutions à des frustrations qui vous gâchent la vie. Et ça passe par l'anticipation et bien sûr une réflexion active. Voilà pour cet épisode 12, j'espère qu'il vous aura éclairé et donné envie d'adopter la positive attitude. Si vous aimez mon contenu, la meilleure façon de me soutenir, c'est une note de 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme préférée, et notamment Apple Podcast. Votre bulle introspective est terminée, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vocation Entrepreneur. N'oubliez pas, prenez soin de votre mental.